nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Musique. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 26 octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Israël utilise la famine comme arme de guerre contre les civils de Gaza. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La situation en Asie de l'Ouest atteint un point préoccupant. Le contrôle peut échapper à toutes les parties d'un moment à l'autre, avertit le ministre iranien des Affaires étrangères. Les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivent. Le nombre de morts dépasse les 7000. Et la résistance irakienne a ciblé la base d'occupation américaine de l'aéroport d'Abu Hajar Kharab-al-Jir, en banlieue de Rasakeh, dans le sud-est de la Syrie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, avertit que compte tenu du massacre et du génocide en cours contre la population civile au Gaza et du soutien aveugle et sans réserve des États-Unis et de quelques pays européens au régime sioniste, la situation en Asie de l'Ouest atteint un point préoccupant et qu'il est possible que le contrôle échappe à toutes les parties d'un moment à l'autre. Devant les journalistes, à son arrivée mercredi soir 25 octobre à New York, pour assister le lendemain à une session de l'Assemblée générale des Nations unies dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et les groupes de résistance palestinienne qui ont débuté le 7 octobre, le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdollahian, a affirmé que la représentation d'Iran à l'ONU a fait des efforts pour que la résolution US ne soit pas adoptée. Le point important est qu'à propos du texte de la résolution proposée par les États-Unis, notre représentation à New York a agi de manière très active, car nos objectifs, qui allaient dans le sens du rétablissement de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région, n'y figuraient pas, a indiqué Amir Abdollahian, sans manquer de préciser que les mesures entreprises par la mission diplomatique d'Iran à l'ONU ont fait que la Chine et la Russie apposent leur veto au projet de résolution américain. Ce qui nous importe, a dit le diplomate, c'est la cessation immédiate des crimes de guerre et du génocide en cours contre la population civile de Gaza et de Cisjordanie, l'envoi immédiat et massif d'aide humanitaire et la lutte contre l'émigration forcée des habitants de Gaza, qui peuvent être inclus dans toute résolution. Dans une lettre adressée mercredi au commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, le ministre iranien des Affaires étrangères lui a demandé d'aider à amener le régime sioniste à répondre de ses crimes de guerre contre la population de la bande de Gaza assiégée. L'Iran attend de vous et des mécanismes de défense des droits de l'ONU que des mesures soient prises pour arrêter immédiatement les frappes du régime sioniste et tenir ses dirigeants responsables des crimes contre l'humanité ainsi que des crimes de guerre, a-t-il déclaré dans la lettre. La Russie et la Chine ont empêché l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies rédigée par les États-Unis, selon laquelle Israël, qui a tué plus de 7000 personnes dans le cadre de sa guerre en cours contre Gaza, a agi en légitime défense. Le projet a été soumis au vote mercredi 25 octobre. Les Émirats arabes unis ont également voté non, tandis que 10 membres ont voté pour et que le Brésil et le Mozambique se sont abstenus. Le Conseil de sécurité a ensuite voté sur un projet de résolution russe appelant à un cessez-le-feu humanitaire exhortant Tel Aviv à annuler immédiatement ses ordres d'évacuation forcée donnés aux civils palestiniens, les exhortant de quitter le nord de Gaza et de se diriger vers le sud. Seuls la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis et le Gabon ont voté en faveur du projet, tandis que 9 membres se sont abstenus et que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont voté non. L'adoption d'une résolution exige au moins 9 voix pour, sans qu'aucun membre permanent du Conseil n'y appose son veto. Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées au 20e jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Des dizaines de maisons, d'immeubles, d'appartements résidentiels et de propriétés publiques et privées ont également été détruits dans diverses zones de l'enclave palestinienne. Le bilan des morts dépasse les 7000, parmi lesquels plus de 3000 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé siégé à Gaza. Une centaine de Palestiniens ont été arrêtés ce jeudi matin lors de raids de l'armée israélienne contre leur domicile dans les territoires occupés de la Palestine, notamment une jeune fille détenue dans le quartier de Sheikh Jarrah à Rotzest pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux. La Société des prisonniers palestiniens a déclaré qu'Israël a détenu 1460 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, sans compter les centaines de travailleurs de la bande de Gaza qui ont été amenés en Cisjordanie après l'agression et détenus par la suite. La résistance islamique en Irak mène des opérations contre les bases d'occupation américaines en Irak et en Syrie depuis 9 jours consécutifs. Le groupe de résistance irakien a annoncé mercredi 25 octobre, tard dans la soirée, que ses combattants ont ciblé la base d'occupation américaine de l'aéroport d'Abu Ajar, Kharab al-Jir, en banlieue de Arsaké, dans le nord-est de la Syrie, avec un barrage de missiles pour la deuxième fois ces dernières heures. La résistance islamique en Irak a revendiqué la responsabilité d'une opération de tir de roquettes contre l'aéroport d'Abu Ajar, occupé par les États-Unis, dans le nord-est de la Syrie, a déclaré mercredi le groupe dans un communiqué confirmant les tirs directs. Dès le premier jour de l'opération Tempête Al-Aqsa, lancée en réponse aux crimes israéliens contre les Palestiniens et leurs lieux saints, le président américain a annoncé un soutien inébranlable à l'entité sioniste et il a immédiatement approuvé un plan d'assistance militaire accrue au régime, qui se fait apparemment de manière quotidienne. Cette mesure était un aveu public de complicité dans la réalisation de tous les crimes israéliens contre les civils à Gaza. Crimes qui ont entraîné le martyre de plus de 7000 civils, dont la plupart sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. En réponse, les factions de la résistance irakienne ont déclaré que toutes les bases américaines à leur portée étaient devenues des cibles légitimes, notamment celles en Irak. Après des semaines d'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France, les syndicats français ont organisé mardi 24 octobre la deuxième manifestation approuvée à Paris pour dénoncer les atrocités croissantes du régime sioniste, ce qui a eu lieu le même jour où le président français s'est rendu dans les territoires occupés et a proposé de manière choquante d'utiliser la coalition occidentale qui prétendait combattre Daesh pour lutter désormais contre le Hamas. Emmanuel Macron est souvent considéré comme étant le président français le plus pro-sioniste de tous les temps. Il a tenté d'interdire la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions, BDS, et a criminalisé à tort l'antisionisme, en le qualifiant d'antisémitisme. La manifestation des syndicats français tombe alors que les rassemblements pro-palestiniens sont interdits à travers la France, ce qui porte atteinte à la vantardise perpétuelle de la France d'être d'ardents défenseurs de la liberté d'expression et de réunion. Les médias locaux rapportent de plus en plus que l'opinion publique commence à se tourner contre Israël en raison de ses crimes de guerre évidents. Même au sein de la classe politique, il pourrait arriver un moment où un président très impopulaire devra peut-être renoncer à sa position de longue date de soutien inconditionnel à Israël. Lors de ce rassemblement anti-israélien à Paris, l'un des participants a indiqué que les gens, toutes religions confondues, était évidemment contre les crimes et les atrocités perpétrées par Israël, appelant les Arabes ainsi que tous les musulmans à soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël utilise la faim comme arme de guerre contre les civils de Gaza. L'organisation caritative britannique Oxfam affirme que la famine est utilisée par Israël comme arme de guerre contre les civils dans la bande de Gaza assiégée. Salia Bihalil, directrice régionale d'Oxfam pour l'Asie de l'Ouest, a déclaré mercredi 25 octobre que des millions de civils étaient collectivement punis à Gaza. La situation est tout simplement horrible. Où est l'humanité? Des millions de civils sont collectivement punis devant les yeux du monde entier. rien ne peut justifier l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Les dirigeants du monde ne peuvent pas continuer à rester les bras croisés et à regarder. Ils ont l'obligation d'agir, et d'agir maintenant, a-t-elle dit. Chaque jour, la situation empire. Les enfants subissent de graves traumatismes dus aux bombardements constants. Leur eau potable est polluée ou rationnée, et bientôt les familles ne pourront plus les nourrir. Combien de temps les gaz-à-vie devront-ils encore endurer? S'est-elle interrogée. Oxfam a également renouvelé mercredi son appel pour que la nourriture, l'eau, le carburant et d'autres produits essentiels puissent entrer à Gaza. Bien qu'une petite quantité d'aide alimentaire ait été autorisée, aucune importation commerciale de nourriture n'a été livrée, a noté l'agence internationale. Selon Oxfam, 2,2 millions de personnes ont désormais un besoin urgent de nourriture. Bien que 62 camions d'aide aient été autorisés à entrer dans le sud de Gaza via le terminal de Rafah depuis le week-end, seuls 30 contenaient de la nourriture et dans certains cas, pas exclusivement. Les frappes aériennes israéliennes incessantes ont détruit ou endommagé plusieurs boulangeries et supermarchés. Ceux qui sont encore fonctionnels ne peuvent pas répondre à la demande locale de pain frais et risquent de fermer leurs portes en raison de la pénurie de produits essentiels comme la farine et le carburant. Notamment, les produits alimentaires essentiels comme la farine, l'huile et le sucre sont toujours stockés dans des entrepôts qui n'ont pas été détruits. Mais comme beaucoup d'entre eux sont situés dans la ville de Gaza, il s'avère physiquement impossible de livrer les articles en raison du manque de carburant, des routes endommagées et des risques liés aux frappes aériennes israéliennes.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous alors que les bombardements s'intensifient à Gaza. Emmanuel Macron, le président français, a exprimé son soutien inconditionnel aux crimes de guerre commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza. Alors que les manifestations anti-sionistes étaient interdite jusqu'ici à Paris, entre autres, des centaines de milliers de manifestants se sont rendus dans les rues pour exprimer leur colère quant à la position de la France vis-à-vis d'Israël en annonçant que la France est complice des crimes criminels donc commis dans la bande de Gaza et bien sûr soutenu la population de la bande de Gaza. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Depuis l'opération surprise et spectaculaire du Hamas contre Israël, suivie en représailles par des bombardements génocidaires de la bande de Gaza opérés par l'armée israélienne, faisant des milliers de victimes palestiniennes, le monde est en pleine ébullition. En France, le gouvernement Macron s'est posé en soutien inconditionnel du régime israélien. Ainsi, l'Élysée, le Quai d'Orsay, fermant les yeux sur le projet funeste d'Israël, fonde de la patrie des droits de l'homme, un complice des crimes de guerre commis contre la population palestinienne. Plutôt que de réclamer un cessez-le-feu immédiat, Emmanuel Macron, en rupture totale avec la diplomatie traditionnelle de son pays sur le dossier israélo-palestinien, se positionne en va-t-en-guerre aux côtés de l'extrême droite belliciste au pouvoir à Tel Aviv. Dans ce cadre, le voyage du président Macron en Israël comporte le risque d'ancrer l'image d'une France soutien inconditionnel d'Israël à un moment où les frappes israéliennes sur Gaza s'intensifient. cette position du gouvernement, de la classe dirigeante et des médias français qui soutiennent ouvertement et inconditionnellement le régime israélien ne peut être qualifié autrement sinon de complicité, de terrorisme d'État, de crimes de guerre et de crimes de génocide. Les manifestants à Paris qualifient Macron de complice des crimes de guerre israéliens. En France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la République à Paris dimanche 22 octobre pour exprimer leur soutien aux habitants de la bande de Gaza où l'armée israélienne a intensifié ses bombardements deux semaines après le lancement de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Réunis dimanche après-midi, les organisateurs ont vivement fait connaître leur colère devant le discours du président Emmanuel Macron. Macron donne un permis de tuer à Israël, a dénoncé Bertrand Heilbronn, le président de l'association France-Palestine Solidarité, sous les applaudissements des manifestants qui sont mis à escander Israël, assassin, Macron complice. Il s'agissait de la première manifestation parisienne en faveur de Gaza, non interdite par la préfecture de police. Le Conseil d'État s'est opposé le 19 octobre à l'interdiction systématique exigée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris avait annoncé dans la foulée lever l'interdiction préfectorale d'une manifestation pro-palestinienne. Alors que des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées à travers le monde en solidarité avec les Palestiniens, certains pays européens, dont la France, continuaient d'interdire et de réprimer les manifestations pro-palestiniennes. Paris a décidé de réprimer les groupes pro-palestiniens depuis le début des agressions israéliennes contre la bande de Gaza, prétendant que les restrictions visent à mettre fin aux troubles publics et à prévenir l'antisémitisme. En effet, depuis le 7 octobre, toute expression de solidarité avec le peuple palestinien est criminalisée par le gouvernement Macron qui, par ailleurs, avait interdit toute manifestation pro-palestinienne en France. Puis, il tente d'assimiler tout soutien à la cause palestinienne à un soutien au terrorisme. Quiconque exprime sa solidarité avec la Palestine est accusé d'apologie du terrorisme et s'expose à des poursuites judiciaires. Rappelez que depuis le 12 octobre, la police française a infligé 827 amendes et a arrêté 43 personnes se présentant comme pro-palestiniennes. Des centaines de militaires français partent combattre contre Gaza aux côtés d'Israël. La question de la complicité de la France dans les exactions de l'armée israélienne est à nouveau à l'ordre du jour, alors que le nombre de Français quitte l'Hexagone pour participer au combat contre les groupes palestiniens à Gaza. Certains médias ont récemment levé un coin de voile sur le transfert de centaines de militaires français disposant ainsi la nationalité israélienne vers les territoires occupés pour participer à la guerre contre Gaza. Sur la question palestinienne, la France a, à l'instar de la plupart des pays européens, abaissé les bras il y a de nombreuses années, une position vivement reprochée aujourd'hui par le monde musulman. Pour s'être rangé consciemment derrière le régime israélien, pour avoir cautionné l'intervention militaire de l'armée israélienne à Gaza et soutenu ses bombardements meurtriers, le gouvernement Macron, la classe dirigeante et les élites culturelles et médiatiques françaises se sont rendus coupables de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Eh bien voilà pour le reportage. La France, patrie des droits de l'homme ou bien complice des crimes commis par le régime sioniste à l'égard des Palestiniens sans défense. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Jean-Maxime Corneille, journaliste, juriste et analyste français en intelligence économique et questions stratégiques. Monsieur Corneille, bonjour.
Bonjour, bonjour Thierry, merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à Bernard Cornu, activiste anti-guerre et anti-embargo, spécialiste français du Moyen-Orient. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir. Un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à Monsieur Cornu, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Cornu, Emmanuel Macron qui exprime son soutien inconditionnel à Israël. Alors, on voit que des milliers de morts chez les Palestiniens. Est-ce que ce n'est pas plutôt un complice avec Israël dans ces crimes ou bien c'est autre chose, M. Cornu?
C'est complexe et c'est difficile à assumer pour le président français qui n'a pas une majorité absolue. Donc, il doit tenir compte aussi de certaines parties de l'opinion française. Et donc, il avait signifié trois objectifs à sa mission. Faire libérer tous les otages, non seulement les otages français, mais tous les otages. Il a même précisé un moment civil et militaire, ce qui peut être critiqué pour la partie militaire, puisque nous sommes en guerre, enfin les Palestiniens sont en guerre avec un État occupant. Deuxième objectif, c'était de faciliter une trêve humanitaire, mais sans dire clairement un cessez-le-feu. Et troisième objectif, c'était, et moi, pour moi c'est le plus important, c'est le plus significatif, disons, c'est la relance d'un processus décisif, la relance décisive d'un processus politique avec les Palestiniens. Et il a même dit que la sécurité de l'État israélien ne pouvait être assurée que par une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Et en ce sens-là, il se met un peu derrière, à l'abri du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a eu des propos très clairs pour replacer l'offensive barbare, disons, et l'offensive très dure du 7 octobre dans le cadre de la vieille occupation par l'État israélien des territoires palestiniens, dans le cadre des emprisonnements, des démolitions de maisons, des assassinats extrajudiciaires. Donc, il a recasé, disons, M. Guterres a recasé ceci dans ce cadre général qu'on a eu tendance un peu à oublier au début. Et M. Macron va se mettre, à mon avis, petit à petit dans ce cadre-là.
Absolument. M. Corneille, alors nous avons entendu les propos de M. Cornu. Alors qu'un président français, un président d'un pays occidental, au lieu d'encourager des pourparlers de paix, il encourage plutôt et il donne la carte verte aux Israéliens de commettre plus d'actes barbares. Que pensez-vous, je vous prie?
Bien, c'est exactement ça le problème. C'est une position qui, diplomatiquement, discrédite la France en tant qu'élément apaisant. La France prend clairement parti pour l'un des deux belligérants d'une façon qui discrédite la diplomatie française à l'égard de tout le monde arabo-musulman, mais également du monde entier, quand la France se prétend normalement championne des droits de l'homme et de la mesure, théoriquement. Ça, c'est ce que la France était naturellement. Mais en réalité, ce qu'il nous faut comprendre, ce que j'ai déjà dit sur votre antenne, mais qui est tellement peu connu qu'il faut le répéter, c'est la lente inversion, la lente subversion et le retournement de la politique, de la diplomatie française depuis, alors spécialement depuis 2003 avec le non à la guerre d'Irak, mais en réalité depuis la naissance d'Israël et depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Les véritables initiés des forces de sécurité françaises en avaient déjà parlé à l'époque, mais les Juifs eux-mêmes l'ont documenté. J'ai déjà évoqué sur votre antenne que dès avant la crise de Suez, dès 1954, l'ambassadeur français Pierre Gilbert en Israël disait clairement que c'était la communauté juive française qui, par son contrôle monopolistique sur les médias et sur le cinéma, avait créé à la fois un réveil entre guillemets du judaïsme français et un courant de sympathie pro-israélien. On en voit l'aboutissement ici et surtout derrière la personne de Macron, c'était déjà le cas avec Sarkozy, mais surtout derrière Macron, il est très envisageable que Macron soit de fait le pantin d'une certaine mafia israélienne, faisant fi des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, parce qu'au sein du judaïsme, nous n'avons pas que des juifs qui sont en faveur de la version la plus Netanyahou de la politique israélienne aujourd'hui, d'une politique d'ailleurs de Netanyahou qui risque en plus d'apporter de précipiter la fin potentielle d'Israël, parce que avec cette logique de Gaza, je pense qu'il y avait réellement une logique de faire une union sacrée derrière Netanyahou, alors que Netanyahou était très populaire, mais que la France soutienne cela aux yeux du monde, la France se place du côté de la version la plus jusqu'au boutiste de la politique israélienne, jusqu'à se faire détester, et donc que la France se fasse détester avec. C'est vraiment un vrai problème qui se déploie sous nos yeux.
Très, très intéressant ce que vous dites, M. Corneille. Est-ce que M. Cornu partage votre avis? Je vois que vous portez le drapeau des Palestiniens sur l'épaule, M. Cornu, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, je vous prie?
Oui, je voudrais nuancer un peu cela, parce que je l'ai déjà dit, la position française est complexe. Il y a des parties tout à fait condamnables, que la France n'est pas encore appelée clairement à un cessez-le-feu, c'est tout à fait condamnable, et ça la rend effectivement complice de la poursuite de ces morts civiles et ces destructions très, très dures dans la bande de Gaza. Mais il y a une autre partie qui a été dite déjà, par le président, mais les médias en ont peu parlé encore. C'est pour ça que j'insiste, et qu'il a dit aussi que la sécurité de l'État israélien ne pouvait assurer que par une relance décisive, c'est-à-dire allant jusqu'au bout, d'un processus politique avec les Palestiniens. Et il a clairement dit que la solution était celle des deux États, et donc cela suppose une négociation forte. Et je pense que les Nations Unies, au moins le secrétaire général, se posent dans ce dans cette même perspective, la Russie aussi et la Chine aussi, l'Angleterre peut être sans doute hésitante, et il faudra que l'Europe fasse beaucoup d'efforts pour convaincre les Nations Unies, les États-Unis de ne pas mettre leur veto à une résolution qui conclurait ou qui pousserait à ce processus de négociation politique. Il faut dire d'ailleurs que le président Macron a aussi évoqué l'idée d'une coalition internationale semblable à celle qui a combattu Daesh. Cette résolution, c'est la résolution, ceci a été créé par une résolution numéro 2170 du 15 août 2014, donc il y a déjà 7 ans, pour combattre le groupe Jabhat al-Nusra et le groupe Daesh, combattre l'apologie du terrorisme. Bon, elle avait été signée aussi accepté par la Russie quand M. Poutine était président en 2014, mais elle a été appliquée de façon, à mon avis, très violente et en dehors de, disons, l'action normale de l'Organisation des Nations Unies, avec des bombardements assez massifs sur la ville de Raqqa, sur la ville de Mossoul, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'images, il y a eu énormément de dégâts civils. Donc, je pense que, enfin, il est sûr que la Russie a protesté contre cette modalité d'application qui était, une fois de plus, contre des pays arabes, concernant des pays arabes, une résolution sous chapitre 7, donc permettant, selon la Charte des Nations Unies, le recours à tous les moyens, donc y compris la force, pour restaurer la paix. En l'occurrence, c'était une résolution pour combattre les djihadistes de Daesh et de Al-Nusra, combattre le terrorisme sous toutes les formes, le financement du terrorisme. Donc l'action du Hamas, qui est une des organisations de résistance palestinienne, n'est pas du tout de même nature. Et donc là, il y a un abus de langage, il y a une erreur qui a d'ailleurs été condamnée par beaucoup de côtés sur cette perspective. Mais encore une fois, j'insiste, le troisième élément prioritaire, c'est la relance du processus politique de négociation pour aboutir à un État palestinien reconnu dans les frontières de 1967, y compris avec Jérusalem Est comme capitale, comme ça a été accepté il y a plusieurs années par l'OLP et les pays arabes, comme même le Hamas l'a accepté en disant qu'il ferait une trêve s'il y avait un État palestinien établi sur une partie libérée de la Palestine. Donc en fait, ceci est une solution possible et sur laquelle il faut aider les Nations Unies, la France et d'autres pays européens, favorables souvent à la Palestine, comme le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, à avancer dans cette perspective. Et je pense que même s'il y a eu beaucoup de maladresse dans les déclarations de M. Macron, même s'il n'y a pas encore un appel clair au cessez-le-feu, sans doute à cause de faible soutien de la politique française qui est très divisée, on l'a vu à l'Assemblée lors des débats, il faut aller dans ce sens-là, et c'est là l'essentiel pour avoir une sortie positive de cette effroyable crise qui a produit déjà 7 ou 8 000 morts en tout dans la région, énormément de destruction. Donc il faut trouver une sortie positive, et il faut effectivement, comme l'a demandé maintenant plusieurs pays arabes de la région, un cessez-le-feu. Et il faut une trêve humanitaire, comme l'a demandé aussi les Nations Unies, et il faut un cessez-le-feu, comme devrait le demander la France le plus tôt possible.
Absolument. Monsieur Corneille, évidemment, si la bonne volonté existait chez la France ou le gouvernement israélien, des pourparlers de paix seraient possibles, une solution politique serait possible, comme a dit Monsieur Cornu. Mais malheureusement, dans l'action, on voit tout à fait le contraire, que ce soit chez la France ou bien les Israéliens qui commettent chaque jour, par exemple aujourd'hui, 140 morts chez de la population dans la bande de Gaza. Donc la réalité, c'est autre chose. Que pensez-vous, Jopri? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Cornu?
Je suis, oui, évidemment. Alors d'accord avec M. Cornu, c'est absolument, il a eu un propos très ciselé, c'est très, très clair. Le deux poids deux mesures, et c'est surtout la façon, en fait, ce qui m'intéresse ici par rapport à l'orientation de la politique de la France, c'est la façon dont elle a été israélisée depuis 20 ans. C'est-à-dire que lorsque l'on voit Netanyahou qui hier nous disait que le Hamas, c'est Daesh aux portes de Paris, de fait, il a raison. Mais en réalité, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de luttes d'influence interne en France et si peu d'union politique au sujet du soutien du Hamas, c'est que nous avons sous-estimé, et le monde arabo-musulman, y compris l'Iran, sous-estime la façon dont en France ont été créées les conditions pour un soutien davantage en faveur d'Israël qu'en faveur du Hamas, parce que le sujet, c'est que des agents d'influence israéliens réussissent en France à faire assimiler la résistance, l'intégralité de la résistance palestinienne au djihadisme international. C'est totalement faux. C'est contraire à l'expertise française. Rappelez-vous que la France a été le premier État à dénoncer le djihadisme artificiel dès 1930 contre les Britanniques qui formaient à l'époque des combattants terroristes, pseudo-musulmans qu'on n'appelait pas encore djihadistes, dans un contexte de futur changement de régime, etc. Mais nous avons un oubli de cette expertise-là parce que depuis des années, nous avons eu des agents d'influence pro-israéliens qui ont facilité la pénétration djihadiste en France. Tant et si bien qu'on l'avait vu à l'occasion des attentats Charlie de 2015, nous avions Netanyahou qui accourait pour dire que, oh là là, vous voyez, Israël a les mêmes problèmes que la France avec le terrorisme musulman, vous voyez, les musulmans sont tous des terroristes. Ça, c'est le résultat d'une opération psychologique qui est sous-estimée pour orienter les positions de la France aujourd'hui en faveur
d'Israël. Monsieur Corneille, est-ce que cette politique a été réussie?
Laquelle exactement?
Laquelle, celle des Israéliens qui ont donc pénétré, enfin par force ou par
absolument.
Les médias.
Oui. Absolument. Cette opération psychologique a été une totale réussite, puisqu'on voyait il y a 10 ans, à peu près en 2013, il y avait une menace d'alliance islamo-chrétienne, notamment autour de la question palestinienne, ou en tout cas de la mobilisation saine de l'opinion publique française en faveur de la cause palestinienne, car c'était un point de tension stratégique et que l'intérêt de la France était d'être une puissance œuvrant pour la concorde des nations, ce que De Gaulle appelait la concorde des nations. Et à cette occasion-là, nous avions vu le banc et l'arrière-banc des agents sionistes, plus ou moins pro-israéliens, notamment Meir Habib, qui est une caricature d'agent d'influence de Netanyahou en France, pour propulser le narratif selon lequel quiconque critiquait la politique israélienne de Netanyahou était en fait un gros antisémite vilain méchant. Et ça, c'est ce à quoi nous aboutissons aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui est musulman aujourd'hui égale terroriste, tout ce qui est palestinien aujourd'hui égale djihadiste, il y a une assimilation fallacieuse, c'est un abus des termes, une torsion des termes, mais c'est l'aboutissement d'une opération psychologique dont les affaires des caricatures et Charlie Hebdo faisaient notamment partie. Mais le résultat est une réussite de cette intention de subversion idéologique israélienne ayant consisté à assimiler donc tout ce qui est musulman, tout ce qui est islam ou tout ce qui est palestinien à du djihadisme au méchant Hamas, qui est la succursale de Daesh, ou au méchant Daesh, alors même que l'on sait que le djihadisme a historiquement été créé artificiellement par les anglo-américano-israéliens. Voilà la réussite que ça a été.
Absolument.
Et c'est l'explication des manquements français actuels.
C'est tout à fait juste. Monsieur Cornu, est-ce que vous voulez réagir, je vous prie?
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que l'influence, disons, dans les médias et même dans la politique française est très ancienne, l'influence des lobbies sionistes pro-israéliens. Moi-même, je sais, et ceci est très peu connu, personne n'en a parlé, qu'il y a une influence très profonde de ces milieux pro-israéliens au sein du ministère de l'Intérieur français, et ceci depuis la fin de 1954-1955, au moment du début de l'insurrection algérienne contre la France, qui avait colonisé l'Algérie très brutalement. Ceci s'était créé au moment où le président Mitterrand, l'ancien président était ministre de l'Intérieur, et il avait recruté beaucoup de personnel de renseignement en Algérie et en France. Mais le ministère de l'Intérieur, par son informatique de l'époque, était incapable de traiter l'information à cause du fait que les noms arabes étaient mal transcrits. Le principe de l'arabe, des langues sémitiques, et c'est l'importance de trois lettres, d'habitude des consonnes. Et en France, on a l'ordre alphabétique, et à l'époque, tout le monde respectait l'orthographe très, très bien. Mais le système informatique du ministère de l'Intérieur en 1957 était incapable de traiter de façon rationnelle toutes mauvaises transcriptions, mauvaises translittérations de l'arabe. Et donc c'est le Mossad qui avait été contacté et qui avait proposé son système informatique qu'il avait développé, avec d'ailleurs un financement Absolument. Américain au moment de la guerre de Corée. Et à l'époque, moi je tiens ceci depuis 1969 d'un ingénieur qui travaillait avec le ministère de l'Intérieur français, avec le service informatique pour implanter des logiciels. Et lui-même avait tenu cette histoire du directeur de l'informatique Absolument. Au ministère de l'Intérieur oui. à l'époque de Mitterrand en 1955. Ceci est très grave et j'ai vu d'autres, je pourrais citer d'autres infiltrations dans les ministères. Monsieur Pérez avait un bureau dans l'administration française pour pouvoir développer la coopération. Il y avait des gens qui volaient des technologies françaises, soit spatiales, soit technologiques, militaires, pour les revendre, les reprendre à leur compte et les revendre ailleurs dans le monde.
Tout à
Donc,
fait.
Toute cette
oui.
infiltration de Français qui était assez naïf, moi je l'ai fréquenté, ayant fait Polytechnique, j'ai bien vu aussi comment de jeunes personnalités brillantes, pro-sionistes, pro-israéliennes, infiltraient l'administration et la technologie française
Absolument.
Pour
Absolument.
Pouvoir la transférer
Tout à fait.
En Israël.
Oui. Bernard Cornu, activiste anti-guerre et anti-embargo, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Jean-Maxime Cornet qui nous a accompagnés dans le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 15 à 17 du chapitre 47 du Noble Coran, la Sainte Sourate Mohammed. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets du Noble Coran qui nous ont appris que sur le champ de bataille, les croyants doivent faire triompher la cause de Dieu. Dans ce cas, Dieu le Très-Haut leur accordera son secours. Le Coran souligne que le combat sera certainement dur et exigera la patience et l'endurance des croyants. La victoire leur appartiendra, car c'est une promesse divine selon laquelle les mécréants seront frappés par des malheurs et leurs œuvres seront toutes vaines. Le Coran appelle les gens à voyager sur la terre et à visiter les vestiges des cités dont les habitants avaient été châtiés pour leur mécréance et leur désobéissance au Seigneur, pour voir le sort réservé aux rebelles. Le Saint-Coran appelle les gens à comprendre que Dieu le Très-Haut est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants n'ont aucune protection. Le Coran compare encore une fois les croyants et les mécréants. Les premiers font de bonnes œuvres et ils seront logés par Dieu le Très-Haut dans le paradis céleste, tandis que les mécréants jouissent des plaisirs de ce bas monde comme des bestiaux, et ils seront brûlés dans l'au-delà, dans le feu de l'enfer. Dieu le Très-Haut s'adresse à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, pour lui rappeler que si les Mécois l'avaient expulsé de sa ville, en s'appuyant sur leur pouvoir et leur richesse, Dieu avait auparavant anéanti les habitants rebelles d'autres cités beaucoup plus puissantes pour leur mécréance. Selon la vision coranique, il n'est point possible de comparer les croyants qui se fondent sur des preuves claires venant de Dieu avec les mécréants qui embellissent leurs mauvaises actions et suivent tout le temps leurs passions. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 15 de la Sainte Sourate Mohammed. Puis nous vous en donnerons la traduction.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Le Saint-Coran décrit le paradis dans lequel seront logés les croyants et les pieux. Coulent dans le paradis quatre ruisseaux. Dans ces ruisseaux coule de l'eau pure et limpide, du lait, du vin délicieux et pur et du miel. Dans ce jardin paradisiaque, les gens profiteront des fruits de toutes sortes et de tous les plaisirs. Contrairement aux pieux, les mécréants et les pécheurs seront logés dans l'enfer, où ils s'éterniseront dans le feu et dans la souffrance. Ces versets nous apprennent que les plaisirs et les souffrances de ce monde sont tous éphémères, tandis que les plaisirs du paradis et les souffrances de l'enfer seront tous éternels. Ceux qui s'abstiennent dans ce bas monde des caprices et des péchés seront récompensés dans l'au-delà. Écoutons maintenant le verset 16 de la sourate 47 du noble Coran.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, « Qu'a-t-il dit tantôt ? » Ce sont ceux-là dont Dieu a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. À l'époque du noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, les gens venaient écouter le prophète prêcher. Certains d'entre eux apprenaient le message divin et en profitaient pour renforcer leur foi, tandis que certains autres se moquaient du messager de Dieu et ils disaient qu'ils n'avaient rien compris de ce qu'il venait de dire. Le Saint-Coran souligne que ces gens-là sont ceux qui se sont rendus incapables de comprendre la vérité et de voir la lumière du salut éternel. Ils tournent le dos à la vérité de la religion et ne suivent que leurs propres désirs éphémères. Ce verset du noble Coran nous apprend que celui qui se laisse porter par ses passions et ses caprices perd la capacité de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Écoutons enfin le verset 17 de la sourate 47 du noble Coran. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore davantage et leur inspira leur piété. Le Saint-Coran souligne que la pratique des bonnes œuvres renforce la foi. En réalité, Dieu offre à ses créatures qui se sont soumises à sa volonté une double récompense. D'abord, la capacité de trouver le bon chemin qui conduit au salut éternel. Ensuite, la pureté et l'élévation spirituelle. Cela permet à l'être humain de développer en lui les vertus et de se battre contre les vices. Cet effort et ce combat le rendent encore plus capable de se purifier pour augmenter sa foi en Dieu. Ce verset du noble Coran nous apprend que l'homme qui a foi et qui croit en Dieu trouve la capacité de distinguer le bien du mal et de renforcer en lui les vertus humaines. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 47 du noble Coran, la sainte sourate Mohammed. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.